Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
C'est pas possible. Il faut ouvrir. Ouvrez, ouvrez, ouvrez.
Liberta! Liberta! Liberta!
Allô la brigade, table 2, 4 couverts s'il vous plaît, 4 tartares.
Nous sommes en guerre.
Nous pourrions faire de 2021 l'année de la gastronomie française.
Nous sommes en guerre.
Ce virus décidément très pernicieux.
On a affaire à un virus qui est diabolique et qui est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense.
Allez,
hey. Et ça prend, hein. On est en guerre, virus intelligent, diabolique, disent les uns, on ouvre, disent les autres, non, pas encore, il n'est pas question d'ouvrir encore. Et puis nous, voilà, eh ben, on déjeune à la maison, on déjeune confiné, on dîne confiné, je sais pas ce qu'on va faire confiné, c'est quand même fatigant tout ça, mais on va en parler puisque le 1er février, aujourd'hui, il y a des restaurateurs qui ont décidé non seulement de l'ouvrir, mais d'ouvrir et des clients de venir, voilà. Et c'est évidemment de la désobéissance civique. Alors, qu'est-ce qui se passe puisque c'est dans l'illégalité, puisqu'en principe, jusqu'à nouvel ordre, on n'est pas encore durée indéterminée, les restaurants, bars, cafés et puis beaucoup d'autres installations ne peuvent pas ouvrir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va aller très vite, après ceci, dans le Doubs, où un restaurateur effectivement a ouvert et il y en a plusieurs autres. Et puis nous allons aussi avec nous, nous avons Alain Fontaine qui est patron du Mesteret à Paris 2e, qui est président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Et ben on va parler manger ou ne pas manger, that is the question.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour.
Dans un restaurant vide où les mouches se taisent, j'aime entendre l'écho des phrases refroidies.
Ah, Serge Lama, il croyait pas si bien dire, hein. Dans un restaurant vide où les mouches se taisent. Et ça a été écrit bien avant que les restaurants soient vides depuis combien? Des mois, quelques mois, ça revient, ça repart. Et puis là, aujourd'hui, eh ben, un certain nombre de restaurateurs ont décidé d'ouvrir, sans attendre effectivement la permission officielle. Et nous sommes actuellement à la Source Bleue, nous sommes en direct, en tout cas avec la Source Bleue, nous n'y sommes pas, mais nous sommes à Paris et avec Stéphane Turion, qui est chef du restaurant La Source Bleue à Cuisance dans le Doubs, et il est avec Stéphane Manigold, qui lui est restaurateur à Paris, mais qui est avec lui et qui est fondateur et porte-parole du collectif Restons Ouverts. Alors Stéphane Turion, vous avez tenu parole, vous ouvrez.
Bonjour André.
Bonjour.
On n'a pas pu ouvrir malheureusement. Pourquoi? Parce que les forces de l'ordre m'ont empêché, la préfecture m'ont empêché et Stéphane m'ont empêché, m'ont dissuadé pour la bonne et simple raison que j'ai gagné. Quoi qu'il arrive, j'ai gagné parce que si tu voyais le monde qu'il y a ici aujourd'hui, on a réussi à fédérer, on a réussi à porter la voix des restaurateurs, des artisans de France, des employés et on a fait une déclaration d'amour à nos clients en disant rouvrez-nous, rouvrez nos restaurants. Parce que si vous ne rouvrez pas demain, c'est toute une profession qui va mourir. Et moi, je suis fier de ce que j'ai pu faire. J'ai fait comme j'ai pu à mon niveau, d'accord? Mais tout seul, depuis mon village.
Ça, je sais, Stéphane, simplement. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé, la police était déjà là. On dit, bon, écoutez, c'est interdit, vous ouvrez
c'est,
pas.
C'est ça. Soit vous faites votre manifestation, soit on vous embarque. Voilà.
Ah, d'accord.
Non, mais André.
Oui.
André, moi, je suis venu de Paris.
Oui, Stéphane.
Pour éviter que notre ami Stéphane Turion ferme définitivement son établissement. Les sanctions, elles sont terribles. Et on a appelé ensemble, avec Stéphane Turion, hier, à ne pas ouvrir, à ne pas rentrer dans l'insurrection. Nous, au fond, André, qu'est-ce qu'on aime? On aime les clients, on vous aime, vous nous manquez.
Mais vous nous manquez aussi, hein. Vous nous manquez aussi.
Les agriculteurs nous manquent, nos amis vignerons nous manquent.
Absolument.
Les comédiens, la vie nous manque. Mais André, pour que Stéphane Turion et tous les restaurateurs et tous les théâtres et tous les bars, les discothèques, les artisans puissent demain continuer à exister, alors il faut qu'on reste dans le dialogue. Et,
ouais.
Croyez-moi, le dialogue, il est rude, mais avec Bruno Le Maire, avec Alain Griset, le dialogue, il est là. Et on est à deux doigts encore de poursuivre pour que des saisonniers comme Stéphane puissent continuer d'exister. On a regardé ses comptes et c'est vrai qu'il est dans une situation qui est catastrophique.
Catastrophique, oui, difficile. Il nous en a parlé, Stéphane, déjà.
Il avait fait le choix d'aller dans l'insurrection. Et je tiens à féliciter le général du Doubs. Franchement, il a été dans le dialogue. Il a été extraordinaire. On a dialogué avec la gendarmerie, le préfet, eh bien, il nous a compris, il nous a entendu. Et Stéphane, il va faire sa cuisine, il va mais donner plein d'amour, mais à emporter, parce que ça, c'est autorisé.
Oui, alors, ah bah oui.
Attends, comme oui, je fais mon restaurant, personne ne payera, d'accord ? Parce que j'ai décidé d'offrir tout ce qu'on va donner à manger aujourd'hui, d'accord ? On va faire une cagnotte et on donnera au Resto du Cœur, parce qu'il y a plus malheureux que moi, et ça, bien sûr. Le sais. Si tu veux me voir demain, je serai à Paris, hein, tu m'appelles, je viens, okay. J'ai une émission ce soir avec Stéphane et le collectif.
Mais on se rappelle, simplement, juste une question. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, Stéphane, là, ah au oui, restaurant. Attends,
regarde, prends le téléphone.
Ah, je vois pas là. Ah oui, ça y est, on les voit. Oui, voilà. Pas mal. Il y a le cordon des policiers. Il y a vous, bravo.
Oui, mais bon. Ça c'est normal, ils sont avec nous, ils sont bien.
Oui, faites bouffer les policiers aussi.
Ils vont même nous aider à distribuer les repas, nos amis gendarmes. Parce que nous, on les aime, tu vois.
Dernière question de Stéphane. Est-ce que vous croyez, vous espérez que ça va durer jusqu'à quand, et vous pensez qu'il y aurait quelque chose quand, pour vous ?
Qu'ils ouvrent les terrasses, qu'ils nous autorisent comme à New York à ouvrir les terrasses, ou ouais. Les amis de Marseille, voilà. Qu'on puisse, comme en Italie, comme en Espagne, comme à New York, eh bien, qu'on puisse ouvrir nos terrasses. Mais dans le dialogue, pas dans l'insurrection, André, d'accord. Parce que les risques, elles sont terribles. Et je vais te dire un truc, André. Tous celles et ceux qui disent « Ouais, mais les mecs, faut ouvrir !» Mais moi, je veux bien faire de la sous-location de mon restaurant à ces gens-là qui ne prennent aucun risque, ouais. Qu'eux le prennent le risque.
Mais parce que ce risque, Stéphane, en Italie, ils l'ont pris en Italie. Il y a des milliers de restaurateurs qui ont ouvert en Italie.
Ils ont mis
un protocole, si tu veux, vert, pas de contamination, orange, attention, fermeture 18h, voilà. Rouge, on ferme.
On est pour le dialogue. Évidemment qu'il faut être pour le dialogue. On n'est pas pour l'insurrection.
On n'est pas des révolutionnaires, on aime la cuisine française, on aime nos artisans et vive la France, André.
Bien, écoutez, et surtout, vos clients vous attendent, on vous attend tous, les restaurateurs, et on a hâte de revenir manger chez vous, ça c'est clair.
Et boire un coup.
Merci, et boire un coup, évidemment. Allez. Évidemment. Merci à vous.
Salut.
À bientôt. Alain Fontaine, bonjour. Merci d'être là. Donc vous êtes, je rappelle, patron du Mesturé. Vous êtes président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Alors bon, ils ont tenté. La police est venue. Évidemment, force reste à la loi. On comprend. Vous regroupez, je crois, 3700 restaurateurs. C'est bien ça ?
Tout à fait. 3200.
De moins, 3200, c'est ça. D'accord. Alors au fond, parlons un peu peut-être du tableau général avec vous. Bon, bien, on a bien vu que là, actuellement, effectivement, il vaut mieux évidemment dialoguer que de se faire fermer son restaurant avec des amendes, avec pas de fonds de solidarité, etc. Mais où on en est ? Quelle est la situation actuellement ?
Alors la situation, elle est claire. On entend cette colère-là, et pourquoi cette colère-là existe ? D'abord, il vaut mieux que des restaurateurs se mettent en colère, qu'ils aillent vers un geste extrême, et il y en a de plus en plus. On a des suicides dans la profession, on en a de plus en plus. On a encore un cuisinier qui s'est pendu, dans sa cuisine la semaine dernière à Bayonne. Donc je crois qu'il vaut mieux cette colère-là. Alors cette colère-là, pourquoi ? Parce que d'abord, il y a un problème économique. Certains des restaurateurs ont un modèle économique qu'ils ont choisi et qui ne leur permet pas d'avoir un fonds de solidarité ou bien le chômage partiel. Ou le minimum des deux. Et donc, ça les met dans une situation de trésorerie catastrophique.
C'est une situation économique spécifique, c'est-à-dire qu'ils cochent pas les bonnes cases, quoi.
Ils cochent pas toutes les bonnes cases. D'accord. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, il faut savoir qu'il y a que 50% de restaurateurs qui sont syndiqués et qui profitent donc des informations des syndicats, et 53% qui sont pas syndiqués. Et donc, ils n'ont pas de tuto, de tuteur. Ils ne savent pas comment faire pour remplir. Et eux sont perdus, et leurs comptables ne font pas leur boulot. Ça, c'est le problème économique qui est grave. Et puis, il y a la frustration pour nous tous de ne pas pouvoir ouvrir. Et là, vous avez une atteinte psychologique très forte qui remonte franchement au deuxième confinement, qui remonte là depuis quelques temps. Vous vous rendez compte que sur la totalité, en pratiquement 12 mois, on aura fermé 8 mois. C'est catastrophique. Ouais. Nous sommes des passionnés de notre métier et on peut pas ouvrir. Donc, vous avez maintenant non seulement un impact financier qui est là, qui existe, avec des gens qui vont se retrouver dans la rue, qui vont pas pouvoir nourrir leur famille. Et là, on sort pas les violons, c'est une vérité. Et la deuxième chose, un impact psychologique qui est là, parce que ce garçon qui s'est suicidé en Alsace, dernièrement, c'était pas un problème financier, c'était un problème de pu avoir ses clients. Notre métier, on ne l'a pas fait pour gagner obligatoirement de l'argent. Je sais que je vais choquer beaucoup. C'est un problème de générosité, de vivre.
Puis on a le contact, le bon vivre, l'art de vivre.
Et on a le titre d'un film en nous, mais c'était dans notre ADN et l'acteur principal, malheureusement, nous a quitté quelque temps. On a le goût des autres. On a le goût des autres et le sens de la fête. Il a joué dans ces deux films-là, Monsieur Bacri. Et ces deux titres de films représentent ce que nous sommes, le goût des autres et le sens de la fête. Et ça, on nous l'a supprimé. Alors oui, il faut reconnaître que le gouvernement, aidé par les syndicats, et je précise bien seulement les syndicats, il n'y a que les syndicats qui parlent. Moi, je ne suis pas membre des syndicats, moi, je suis président de l'association. Ouais. C'est les syndicats qui vont au contact de M. Le Maire et M. Griset, et on est plutôt bien servi en France. Il va falloir faire encore des efforts. Il y a des zones sinistrées, et c'est pas 20%, c'est 25% qu'il faut. Je pense à Paris, mais à d'autres villes. Oui. Et puis, il va falloir penser à deux semaines de congés payés supplémentaires, car ça, c'est pas possible, c'est des bombes à retard. Mais on est bien servi, mais vous n'enlèverez pas que là on est devant des problèmes psychologiques et des drames personnels importants.
Et alors, qu'est-ce que vous dites? Vendredi, je recevais ici, vendredi dernier, sur Sud Radio, recevais Didier Raoult. Et pour le professeur Raoult, et lui disait, mais il n'est pas le seul, il disait, mais attendez, les clusters, le confinement, rien ne prouve que ce soit dans les restaurants que ça soit passé. Quand il dit restaurant, bar et ailleurs. Il dit, vous avez plus de chance de l'avoir, effectivement, dans un certain nombre, dans les reconfinements familiaux, que dans les restaurants. Et est-ce que vous, comment vous avez, sans, encore une fois, il faut dialoguer, je suis d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème de se dire, mais au fond, dites-nous pourquoi, je suppose que vous posez la question, pourquoi nous on est fermés, quoi, en fait?
Alors le problème est le suivant, c'est que le postulat de base, mais ça dans le monde entier,
oui,
parce que nous sommes des symboles, mais plus en France que dans d'autres pays, c'est l'art de vivre, c'est ce qu'on appelle la commensalité ouverte, c'est-à-dire que les gens se reçoivent, discutent autour d'un comptoir, ou dans un bistrot, ou dans un café, et ça nous touche beaucoup, parce que ça fait partie, là encore, de l'ADN des Français, bistrots, les cafés. Ça a été le postulat de base, de dire, c'est les lieux de vie, donc restaurant, café, bistrot, cinéma, théâtre. Et ça a été dans le monde entier. Et
c'est des lieux de vie, ils ont postulé que ce sont des lieux de mort.
C'est exactement, c'est extraordinaire. C'est effectivement. Et ils ont complètement oublié la sphère privée. Ils ont oublié les restaurants d'entreprise. Les restaurants d'entreprise sont restés ouverts sans geste barrière, je précise, tout au début. Et puis, ils ont oublié, bien sûr, les cantines d'école. Moi, j'ai 5 enfants, dont 3 qui vont à la cantine, donc je sais de quoi je parle.
Et ça, c'est ouvert, les cantines, les restaurants d'entreprise, bien sûr.
Ils ont oublié que c'était par les enfants que passaient, mais on ne peut pas non plus. Et là, on peut pas fermer les écoles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas, on ne peut pas le faire. Le postulat de dire c'est les restaurants, les cafés, les bistrots, les cinémas, les théâtres, a été, je pense, une petite erreur de démarrage, mais qui coûte très cher aujourd'hui. Et pour des raisons, ils ne veulent pas se désavouer, ils ne veulent pas revenir en arrière. Donc on va en rester là. On va aller jusqu'au bout, il faut qu'on tienne. Moi, je passe un message à tous les restaurateurs de France. Oui. Les colères sont saines. Mettez-vous en colère plutôt que vous suicider. Ça, c'est la première des choses. Restons surtout ensemble, battons-nous ensemble. Mais surtout, surtout, soyez patients. On va y arriver, il faut se battre, il faut ne pas subir, il faut survivre, faire de la vente à emporter. Moi, je ne peux pas vivre avec le chômage partiel et le fonds de solidarité, je dois ajouter la vente
à
emporter.
Est-ce qu'il y a des restaurateurs, à La Fontaine, là je pose la question au président de l'association, qui se disent après tout, oui mais nous on peut vivre avec le chômage partiel et ce qu'on reçoit, bon ben on verra, quand ça ouvre, ça ouvre.
Alors,
ils se disent, bon ben écoutez, la situation n'est pas, voilà, très franchement.
Alors très franchement, il y en a pas qui se disent ça totalement. Il y en a qui peuvent vivre avec le chômage partiel
et le fonds de solidarité.
Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils sont propriétaires de leur mur, tout simplement. Donc, ils n'ont pas de loyer. Pourquoi? Parce que ils sont la deuxième, troisième génération. Ils n'ont plus de dettes, plus d'emprunts. Et donc, ils n'ont pas ce que nous avons, certains d'entre nous, et j'en fais partie.
Ouais.
Le mur de dette, les loyers à payer. Ça, c'est pas tenable. Et donc, si vous voulez, certains se disent, oui, ça peut tenir. Mais tous, je vous le dis, tous, ils ont la frustration de ne pas pouvoir travailler. C'est très dur. Vous savez, c'est un métier de passion. Et je le dis souvent, la seule richesse qui va rester entre nous, et tout à l'heure, la chanson que vous passez de la main, je ne la connaissais pas, elle est magnifique.
Oui,
mais
formidable.
La seule richesse qui va rester entre nous, c'est la passion et la fierté de notre métier. On a fait ce métier-là, on a commencé, on avait 14, 15, 16, 17 ans. On le fait depuis 30, 35 ans. Moi, ça fait 46 ans que je le fais, ce métier-là. Et je sais que ce qui va me rester, je vais tenir debout. Mais la seule chose qui va me rester à la plupart d'entre nous, c'est la fierté de faire ce métier et la passion de ce métier. Mais cette richesse-là, on l'a, et par rapport à d'autres, on l'a, et c'est ce qui nous tient debout en ce moment. Et il faut le dire à tous, tenez à tous les restaurateurs en France et aux maîtres restaurateurs, je leur dis, tenez grâce à ça. La passion et la richesse de votre métier, la fierté de le faire.
Tout à fait. Et pour dire et pour finir, c'est vrai que c'est tellement important et surtout ne pas arriver au stade où on va supprimer ce qui fait l'art de vivre à la française.
Alors
ça, c'est grave, ça risque.
C'est énorme, et ça, je crois que le gouvernement ne prend pas l'ampleur, la mesure de ces dégâts collatéraux qu'il y aura et successifs sur notre art de vivre, qui est important, qui fait partie. Il faut le dire, c'est pas un gros mot, qui fait partie aussi de la cohésion nationale. Et il n'y a
bien
pas
sûr
que le vote, il n'y a pas que tout cela.
Bien sûr.
On est un pan. C'est une vérité, on est un pan naturel de la démocratie française, cette capacité d'intégrer dans nos bistrots cet effaceur confessionnel, ethnique, professionnel. On est tous égaux devant un café. Et rappelez-vous ce que disait Balzac, les cafés sont le parlement du peuple.
Absolument. Et je dis qu'aller au restaurant, au bistrot ou au café, c'est un référendum d'initiative populaire. Merci à La Fontaine.
Allez, chers amis, vous avez entendu en direct hein, Stéphane Turillon et Stéphane Manigold, d'ailleurs aussi fondateur et porte-parole du collectif Restons Ouverts, qui se sont justement, avec ce cordon de gendarmerie, hein, qui se sont fait contrôler avec leur papier d'identité et tout ça, et qu'ils n'ont pas pu ouvrir justement ce fameux restaurant, la Source Bleue. On a vu tout ça en direct et on a entendu aussi Alain Fontaine, je rappelle, président de l'Association française des maîtres restaurateurs, nous dire « Mettez-vous en colère, mais ne vous suicidez pas », des paroles très très fortes. Vous pouvez réagir à tout ça, hein, au 0826 300 300, on vous attend.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Voilà, et pendant que des restaurateurs essayaient d'ouvrir, mais évidemment, dans l'illégalité, la police était là. Bon, tout s'est plutôt bien passé, mais attention, contrôle d'identité, etc. Et puis maintenant, bah, ils sont en train de nourrir, en tout cas, cash and carry, hein, prenez et emportez aux clients qui sont venus. Et il y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas très contentes. Hein. Hier, les embouteillages sur l'autoroute, c'était pas mal. Parce que là aussi, il y avait des PV à distribuer. Alors le PV, c'est devenu la chose du monde la mieux partagée. Écoutez, on en parle tout de suite.
Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Dans les embouteillages, tu penses autant qu'au temps. Tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arts, les accrédits, les japonaises débridées.
Dans les embouteillages, sans Cerverino. Et il l'a écrit bien avant, là aussi, c'est comme Lama qui écrivait Le Resto Vide. Bien avant, et oui, quoi, ce qui s'est passé hier, dimanche soir, retour de week-end, évidemment, les gens ont envie de respirer un peu. Et notamment, mais ça s'est passé dans plusieurs villes de France et de régions de France et de Navarre, mais sur le périphérique, Porte d'Orléans et tout ça, couvre-feu, évidemment, à 18h, donc les gens rentrent un peu en fin d'après-midi, quoi, et puis contrôle, 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 contrôle. Parce que pour franchir le péage de Buchelay-Yvelines sur l'autoroute A13, les automobilistes de retour de Normandie, eh ben, ça n'a pas arrêté. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les automobilistes se retrouvaient coincés dans le trafic alors que le couvre-feu tombait à 18h et que Gérald Darmanin était attendu sur place à 18h30. Il devait assister à un contrôle d'attestation mené par les forces de l'ordre. Alors évidemment, les forces de l'ordre contrôlent, bon ben c'est leur rôle. Et puis, résultat des courses, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de bouchons. Voilà. Nos forces de sécurité, a tweeté Darmanin, étaient mobilisées pour faire respecter les règles sanitaires. Alors pourquoi ralentir la propagation du Covid-19? Alors est-ce que... C'est une vraie question que je pose aux scientifiques. Est-ce que le Covid-19, sous embouteillage, ça ralentit ou ça augmente? Je ne sais pas. On va demander, on va le savoir. Et alors voilà. Et on a eu des réactions des usagers de la route, qui étaient pas mal du tout. Il a fait la queue durant près d'une heure avant de franchir le péage. Pourquoi 4 caisses sur 15 sont ouvertes? Eh oui, 4 caisses ouvertes au péage de Buchelay, un dimanche soir sur la 13. 4 caisses ouvertes. Sur 15. Alors, il était une heure pour passer le péage, etc., etc., etc. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et ils ont pris du temps et ils n'en pouvaient plus. Et on a vu des automobilistes qui n'en pouvaient plus, qui étaient là depuis une heure, qui étaient rentrés avant 18h, simplement, voilà. Ils se sont retrouvés malgré eux en retard à cause de cet embouteillage. Et d'ailleurs, sur l'Île-de-France, 400 kilomètres de bouchons dimanche soir, 400 kilomètres de bouchons. Bon, ben tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est ça, hein ? Et oui, et ça continue encore. Et encore.
Et là aussi, vous pouvez réagir évidemment au 0826-300-300. Est-ce que quand on est pris dans un embouteillage, on est en fraude, on est responsable justement par rapport au couvre-feu ? C'est une question qui se pose. Hein. Vous pouvez réagir.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ça tweet. Et voici le tweet du jour.
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, fin d'époque et de la limonade. Des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade.
Léo Ferré chantant Arthur Rimbaud, et mais là les cafés étaient ouverts hein, sous les tilleuls. Et puis aujourd'hui, là, c'est le tweet de Perle. Le tweet de Perle qui nous a vraiment, vraiment, vraiment plu. Et je vous le lis, le tweet envoyé par Perle. Interdit de vendre de l'alcool aux moins de 18 ans. Interdit de vendre du tabac aux moins de 16 ans. Interdit de recevoir des mineurs de moins de 16 ans non accompagnés dans un débit de boisson. Interdit de voter aux moins de 18 ans. Mais, consentement sexuel possible à partir de 13 ans. Eh ben, bravo. Voilà la logique. Ça, c'est une vraie logique, hein. Vraiment. Perle, c'est bien, d'avoir relevé ça. Voilà. 13 ans, on y va. Pour le reste, attention. Les priorités sont là.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Mon beau sapin, roi des forêts, oui, Noël est fini, mais quelle belle chanson. Eh bien, écoutez, à Bordeaux, voilà ce qui va se passer à Bordeaux. Eh bien, une mer de panneaux photovoltaïques à la place des pins maritimes, c'est le projet Oriseo, envisagé par Angie Néonen, sur 1000 hectares à Saucat, sans dire, sur 1000 hectares. C'est-à-dire, un projet de parc solaire géant prévoit d'abattre 1000 hectares de forêt. Hein. Voilà, c'est très simple. Oui, mais c'est très bien. Puis comme ça, on recevra des subventions, et c'est bien. On sait très bien que les panneaux solaires, c'est des intermittents. Hein. Des intermittents, le soleil, il n'est pas toujours là, mais ça ne fait rien. Eh bien, on l'aurait entendre, et d'ailleurs il est le bienvenu, les réactions du maire écologiste Europe Écologie Le Vert de Bordeaux, M. Pierre Hermic. Je rappelle que M. Pierre Hermic ne voulait pas d'un arbre mort comme sapin Noël sur la grande place de Bordeaux. Il trouvait que le sapin Noël, ça servait à rien, c'était un arbre mort. En revanche, abattre 1000 hectares de forêt tout près de chez lui, eh bien on saura ce qu'il en pense. Voilà. C'est-à-dire que pour la transition écologique, la solution, c'est abattre des forêts. C'est pas beau, ça. Vive la logique.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nuit de Chine, nuit d'Aline, nuit d'amour, nuit d'ivresse.
Ah, et quelles ivresses, et quelles ivresses. Écoutez, on croyait que c'était une fake news, je vous promets, quand on a parlé, quand Thibaut Sadler, mon réalisateur, et Clémence Oudiakova, qui fait l'émission avec moi, m'ont parlé, j'ai dit, mais non, c'est pas possible, c'est une fake news. Écoutez-moi bien, auditeurs du Sud Radio, c'est intéressant. Si vous voulez aller en Chine, il faut savoir, dorénavant, que vous devriez, pour ceux qui vont en Chine, vous soumettre à un nouveau test de dépistage du Covid-19, effectué non plus dans le nez, non, non plus dans la gorge, non, dans le rectum. Eh oui, la mesure s'applique, voilà, aux Chinois aussi, aux habitants des zones considérées à haut risque. Alors, c'était pas le cas à Wuhan, mais depuis, ils se sont rattrapés. Voilà. Et j'explique, le docteur Li Tongzheng, il dit, le coronavirus reste présent plus longtemps dans l'anus que dans les voies respiratoires. Le dépistage rectal permet d'augmenter le taux de détection des personnes infectées, notamment pour les nouveaux variants. Voilà. Les nouveaux variants connaissent le transit intestinal. Alors, les Chinois sont pas très contents, ils disent c'est embarrassant, c'est humiliant. Eh bien oui, mais c'est comme ça, hein. La Chine, c'est un régime d'autorité. Et voilà, travailler, c'est le fond qui manque le moins, sinon le fondement.
Et vous l'avez compris, chers amis auditeurs, en fonction de ce que vous aimez ou ce que vous aimez moins, vous irez ou vous ne partirez pas en Chine en ce moment. Et allez, restez avec nous dans quelques instants. André Berkov reçoit Hervé Juvin, qui est essayiste, écrivain français, eurodéputé Rassemblement National et candidat aux élections régionales de juin 2021.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Hervé Juvin, qui est donc essayiste, écrivain, eurodéputé Rassemblement National, mais le groupe s'appelle Identité et Démocratie au niveau de l'Europe, et candidat aux élections régionales de 2021.
Dans les Pays de Loire.
Dans les Pays de la Loire.
Pressons-nous de l'ajouter. Hervé Juvin, effectivement, c'est à l'essayiste, à l'écrivain, bien sûr, mais c'est à l'eurodéputé que je m'adresse d'abord, parce qu'on a beaucoup suivi cette histoire. On a reçu d'ailleurs Michèle Rivasi, qui est elle-même députée européenne, ELV. On a reçu d'autres personnes. Et cette histoire de deux choses, par exemple. D'abord, ça a commencé avec l'achat du Remdesivir par l'Union européenne, mais les vaccins, surtout les vaccins, AstraZeneca, etc., et de la possibilité aux députés européens, même ceux qui sont dans le contrôle du budget, de voir, de regarder cela, et puis les négociations. C'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est qu'on se fait vacciner, très bien, le problème n'est pas sur la contestation ou pas de la vaccination, le problème, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'on aimerait savoir, puisque des millions de personnes se font vacciner, puisqu'on a acheté, effectivement, un certain nombre de doses, on va parler du retard, etc. aussi, c'est comment ça fonctionne, Hervé Juvin. Comment ça fonctionne? Et c'est là où on est vraiment. Comment ça fonctionne? Est-ce que les États ont leur mot à dire? C'est la Commission européenne qui décide, solitaire. Comment ça se passe?
Ça se passe ou ça ne se passe pas de la manière suivante. Au terme des traités européens, le sanitaire, le domaine sanitaire, est de la compétence des États membres de l'Union.
C'est ça, il n'y a pas de politique européenne de la santé.
Alors, il n'y a pas de politique européenne de la santé, mais,
oui,
selon une recette formulée en son temps par Jean Monnet, toute crise est bonne à prendre, parce que toute crise est l'occasion pour la Commission d'acquérir un peu plus de pouvoir et de s'ingérer un peu plus dans les affaires des nations. Mmh. Et la pandémie de Covid-19 a été saisie au bon par la Commission européenne, sous la raison ou le prétexte suivant: nous sommes sur une pandémie qui touche tous les États membres de l'Union. Nous, Commission, nous avons une capacité supérieure à négocier, nous avons une capacité supérieure à anticiper, et donc nous allons en quelque sorte nous auto-saisir de la capacité de négocier avec les big pharma, les grands laboratoires pharmaceutiques, le vaccin supposé pouvoir mettre fin à la pandémie. Et c'est ce qui s'est passé. De manière, je le précise, totalement unilatérale, sans que les États soient consultés et sans que les États membres de l'Union soient associés à la négociation que la Commission a engagée de son propre fait.
Ni consultation, ni association.
Ni consultation, ni association, au nom de « on est plus gros ensemble, oui, donc on va négocier des meilleurs tarifs et des meilleures conditions ».
Sans en avertir les États des conditions.
Les États n'ont absolument pas tenu au courant ou associés aux négociations sous prétexte constamment utilisé, que la confidentialité est nécessaire pour aboutir aux meilleures conditions. C'est le principe des acheteurs dans les grandes entreprises, je l'ai bien connu dans ma vie précédente, j'ai assisté à la montée de la fonction achat, l'idée étant qu'un acheteur, c'est d'abord un expert, c'est une compétence très bien valorisée dans les grandes entreprises industrielles, et un acheteur qui achète pour tout un groupe va évidemment payer moins cher que si chaque filiale s'organise dans son coin. Ça a été la méthode prise par la Commission européenne. Ça me conduit à poser au moins deux ou trois questions. Où sont les compétences d'achat au sein de la Commission européenne? Est-ce qu'on a des acheteurs professionnels? Et est-ce qu'on a des acheteurs professionnels qui savent négocier des contrats qui portent sur des milliards d'euros, sur des sujets aussi essentiels que des vaccins qui vont toucher potentiellement des dizaines, voire des centaines de millions d'Européens? Où sont les compétences? Où sont les expertises? Dans l'état actuel des choses, je ne sache pas que la Commission européenne dispose de telles expertises. La deuxième question, c'est naturellement la transparence démocratique.
Pardon, excusez-moi, déjà, c'est très important ce que vous venez de dire, Hervé Juvin. Vous pensez, parce que vous dites « je ne sache pas », vous pensez que les responsables des achats, puisque c'est ça la fonction achat, les gens qui sont là ne sont pas des spécialistes des vaccins vraiment, enfin suffisamment compétents et à la hauteur pour juger, ou pas?
Ce serait à la Commission de démontrer l'inverse, ouais. Mais j'ai une observation à ce sujet. Comme d'autres États membres, la Belgique a de son côté négocié en direct avec des laboratoires. Et ce que l'on a su à l'occasion d'une bourde d'une ministre belge, c'est que le prix d'achat du vaccin par la petite Belgique, ouais, je vous le rappelle,
oui,
la Belgique, c'est très peu par rapport à l'Union européenne, le prix d'achat du vaccin par la Belgique est plus bas que celui négocié par la Commission. D'accord. Ce qui évidemment pose quelques questions.
Certes.
Où est allé l'argent? Comment ont été faites les négociations? On a assisté à un déni de démocratie qui vient de se confirmer la semaine dernière. Vous l'avez su en accueillant ma collègue, la députée Michèle Rivasi. Je m'associe naturellement aux poursuites qu'elle veut intenter auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, parce que les députés ont eu la possibilité de consulter les contrats de manière tout à fait exceptionnelle. Ils avaient à peu près 50 minutes en ayant abandonné leur téléphone portable, tout moyen de prendre des photos. Arrivés dans la salle où les contrats étaient naturellement seulement en anglais, ils se sont aperçus que toutes les clauses importantes, notamment financières, notamment de responsabilité, avaient été caviardées. En d'autres termes, la Commission s'est affranchie de tout contrôle démocratique. Je pense qu'elle prend un grand risque, parce que là, je ne suis pas sûr que la qualité des vaccins soit au rendez-vous. Je ne suis pas sûr que les vaccins, mais nous allons en parler, soient la panacée attendue. Et je considère pour ma part que la Commission, en outrepassant manifestement ses pouvoirs et ses compétences, a pris un grand risque, et pour elle, et pour toute l'Union européenne.
Non, et surtout, pour le moment, on va reparler, laissons de côté la discussion sur les vaccins, mais vous dites donc effectivement que les députés européens, après tout, ils nous représentent, ils représentent les 400 millions, 350 millions d'Européens, n'ont pas pu consulter l'entièreté des contrats. Il paraît même sur les effets secondaires, même.
Non seulement ils n'ont pas consulté l'entièreté des contrats, mais sur la réalité des prix et des conditions financières, et encore plus sur la responsabilité des laboratoires en cas d'effet secondaire négatif, nous, députés, ne sommes à peu près informés de rien. On nous dit, et il semble, que de manière totalement arbitraire, la Commission ait permis aux laboratoires de dégager leurs responsabilités et de la reporter sur les États. En d'autres termes, la Commission aurait acheté des vaccins auprès de laboratoires pharmaceutiques, mais la responsabilité en termes d'effets secondaires négatifs serait à prendre charge par les États membres qui n'auraient pas été consultés sur ce point. On est naturellement sur des abus de pouvoir et sur des pratiques non démocratiques qui, me semble-t-il, risquent de poursuivre longtemps la Commission européenne.
Alors, Hervé Juvin, il y a quand même une question qui se pose tout de suite. Comment aucun État, ou alors à ma connaissance, peut-être il y en a, n'ont pas réagi? Enfin, les États ne sont pas complètement asservis, vassaux ou devenus n'importe quoi. Pourquoi on n'a pas entendu les réactions ou les protestations au niveau étatique? Je ne parle pas seulement de la France, mais des autres.
Le credo de la majorité de nos gouvernements, et je crains malheureusement que ce soit la ligne du gouvernement français, c'est bien à l'affaiblissement et à la destruction des États-nations, au profit des institutions européennes, de cette forme de super-État qui est en train de se constituer. Et donc la majorité de nos dirigeants sont en faveur des abandons de souveraineté, des abandons de compétences au profit de la Commission européenne. L'exemple le plus frappant, c'est celui des traités internationaux. Vous savez que la Commission européenne s'est arrogé le monopole de l'ouverture des négociations sur des traités de libre-échange et en fait du monopole de la conclusion de ces accords. Le contrôle démocratique ne venant qu'après et étant extrêmement subordonné et limité. Donc il y a cette position de principe. Ce que font les institutions européennes est bon, elles doivent prendre de plus en plus de pouvoir. Vous avez une seconde réalité, et pour moi c'est une question de fond beaucoup plus large que cette question des vaccins et de la Commission. Nous sommes dans une situation très particulière en Europe. J'y ai consacré un livre, « L'avènement du corps », publié chez Gallimard il y a quelques années. À peu près plus aucun Européen ne croit que cette vie va décider de sa vie ultime pour l'éternité. L'espoir dans le salut religieux pour la vie éternelle a disparu. Et à peu près plus aucun Européen ne croit que son engagement politique va déterminer un monde meilleur. L'espoir révolutionnaire dans le salut terrestre a lui aussi disparu. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai que mon corps est mon seul patrimoine, et tout ce que j'ai, c'est ma capacité à profiter de mon corps le long de ma vie.
C'est ce qu'on appelle le retour de l'individualisme.
Oui, mais ça veut dire que tout gouvernement européen est tenu par la promesse de 80 à 90 ans de vie sans souffrance, sans accident, sans handicap, en profitant pour tous les citoyens. Ça provoque, je crois, une forme de tétanisation de l'action publique. On le voit bien chez nos dirigeants, qui sont tétanisés à l'idée qu'une décision puisse mettre en jeu la vie humaine. On l'a bien vu avec cette aberration qui est que des familles de soldats français morts en opération en Afghanistan ont porté plainte contre l'armée. L'armée n'avait pas protégé leurs enfants ou les membres de leur famille qui étaient soldats. Ça, c'est quelque chose qui tient tous les gouvernements européens. C'est une différence majeure par rapport à la Chine, par rapport à l'Inde, par rapport à beaucoup d'autres continents,
la Russie, mais
où cette préférence absolue pour la vie individuelle n'existe pas. Donc les gouvernements sont tétanisés par l'idée de prendre des risques. Et je crois qu'il y a au fond de ce déport de compétences vers l'Union européenne l'idée que ça n'est pas idiot de transférer ses responsabilités à une institution supranationale très largement organisée pour ne jamais faire face à ses responsabilités. Parce que vous savez, la Commission européenne a ceci de particulier, qu'elle accepte d'être jugée sur ses bonnes intentions, elle n'accepte jamais d'être jugée sur ses résultats.
Oui, mais alors attendez, deux choses. D'abord, moi je veux bien qu'on aille vers ça. Enfin, on a eu pas seulement un certain Raymond Aron qui disait que la vie et que l'histoire était tragique, c'est pas nouveau. Et puis deuxièmement, là c'était un humoriste, c'est pas du tout le même niveau, mais quand même, qui rappelait à tout le monde, et qu'on le rappelle, que la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Donc il faut quand même pas se raconter l'histoire. Tout le monde sait que on est limité, et on espère le plus tard possible, pour chacun. Donc, vous pensez-vous que cette idée-là, ça y est, elle a disparu? Les gens savent quand même, Hervé Juvin, enfin la majorité, y compris des gens qui ne, peut-être en haut sommet, qui ne pensent pas plus loin que le bout de leur réélection, mais on peut dire quand même que tout le monde sait qu'à un moment donné, la violence est là. Ceux qui croyaient à la fin de l'histoire, on a bien vu ce qui s'est passé après le 11 septembre, et les attentats, etc., etc., etc. C'est pas à vous que je vais faire le portrait. Donc, je ne comprends pas cette espèce d'ablation, je dirais presque, de tout un pan de l'individu, qui est que nous autres civilisations et nous autres humains savons que nous sommes mortels.
Vous citez Paul Valéry, oui. André Bercoff. Je pourrais citer beaucoup d'autres auteurs sur qu'est-ce qui fait qu'une vie vaut la peine d'être vécue. Je crois que c'est la question qui se pose à nos dirigeants politiques. Est-ce qu'une vie dans laquelle on ne peut plus se rencontrer, une vie dans laquelle on ne peut plus sortir, une vie dans laquelle on ne peut plus aller au théâtre, au cinéma, une vie dans laquelle on ne peut plus faire la fête, etc., c'est peut-être une vie très longue, mais est-ce que c'est toujours bien une vie humaine? Je vous rappelle qu'une cour allemande, la semaine dernière, a déclaré que les décisions de confinement étaient anticonstitutionnelles, et elle a très hautement proclamé le droit des Allemands à avoir une vie sociale, à se rencontrer, etc.
C'est une cour de justice.
C'est une cour de justice allemande, je crois que c'est la cour de Weimar, et ça va être très intéressant de voir la suite que va donner la cour constitutionnelle de Karlsruhe. Que vaut une vie confinée? Que vaut une vie sous le masque? Que vaut une vie isolée et en confinement? Je ne suis pas sûr que ce soit une vie. C'est une question qui nous...
On en parlait avec le restaurateur, il y a un quart d'heure. Oui.
C'est évident, c'est une question qui est devant nous. Qu'est-ce qu'une vie qui vaut la peine d'être vécue? Je crois que c'est une question qui est devant nous parce que, contrairement à tout ce qui a été raconté, nous n'allons pas vers le monde d'après, nous allons dans le monde d'avec. Je suis pour ma part à peu près convaincu, j'espère bien me tromper, que les effets de la pandémie sont durables. Je crois que nous sommes en train de découvrir que le vaccin, ça n'est pas la panacée. Et certains épidémiologistes nous disent même que la manière dont il est procédé à la vaccination et va revenir aux modalités du combat contre le virus peuvent être plus dommageables que bénéfiques, tout simplement parce que quand on vaccine très lentement une population, et on sait qu'en France on est parti pour être parmi les derniers de la classe, aucun des objectifs annoncés à grand son de trompe par M. Véran ne seront tenus, on voit bien et on sait bien qu'à ce moment-là, le virus peut développer des mutants qui vont être résistants au traitement.
Il développe déjà. Le virus a toujours développé des mutants.
Exactement, ouais. Parce que le problème du virus, c'est qu'il veut vivre. Et donc, il réagit. Donc, autant vacciner en masse une population en un court laps de temps peut effectivement la protéger.
Bien sûr.
Autant étaler la vaccination sur des mois, peut-être jusqu'à la fin de l'année ou plus, ça permet au virus risques. De s'adapter, de muter. Et donc, je crois et je redoute que nous ne soyons contraints de vivre avec la pandémie pendant encore fort longtemps. Il me semble évident que les mesures actuellement prises, je crois d'ailleurs qu'en ce sens, le président Emmanuel Macron a fait preuve de beaucoup de sagesse en repoussant le confinement. Il est clair que ça n'est pas une vie, la vie sous le masque, la vie confinée. Et il est clair que des questions politiques qui ne peuvent pas être abandonnées aux experts sont en train de se poser à nous tous.
Alors justement, vous soulevez des problèmes. Je suis content d'ailleurs, tout le monde va être content, parce que vous êtes ce que j'appelle un pessimiste raisonné. Moi, je suis un optimiste, peut-être pas assez raisonné, mais on se comprend là-dessus, Hervé Juvin. Simplement, alors, on revient à ça. Moi, j'écoutais hier Tapie sur France 2. Je cite Tapie parce qu'il citait Stéphane Bancel, le patron de Moderna, je crois que c'est, ou AstraZeneca, je ne me rappelle plus. Enfin, ce français, c'est Moderna, hein, oui. Et il disait que Bancel avait proposé au gouvernement français en mars, avril dernier, de discuter un peu des achats et qu'il n'avait eu aucune réponse. Là aussi, c'est cette opacité de la Commission européenne dont vous parliez au début qui fait que, je ne comprends pas, là, le gouvernement français, par exemple, quand un laboratoire pharmaceutique français, ou le gouvernement, quand il vient le voir, il dit, écoutez, il y a peut-être des choses à faire, comme a fait l'Angleterre, qui a acheté 3 mois avant, etc., comme a fait Israël, qui a acheté plus cher, etc., vous voulez dire que l'État français, lui, il peut rien... Enfin, l'État français ou tous les autres États peuvent rien faire en disant, non, c'est la Commission européenne qui décide. Il y a quelque chose d'étonnant, là, ça fait un an, cette histoire.
L'État français veut absolument s'affirmer... Je parlerai plutôt du gouvernement français. Si
gouvernement français, oui.
Le gouvernement français veut absolument s'affirmer comme le bon élève de la classe européenne, parce que le projet, il est manifeste. Le projet du président Emmanuel Macron, c'est d'apparaître à l'issue de la conférence pour l'avenir de l'Europe qui va se tenir prochainement, qui devrait s'achever au moment de la présidence française de l'Union. C'est d'apparaître comme le leader incontesté de l'Europe. Et c'est d'apparaître comme celui qui aura raté énormément de choses en France, mais qui aura réussi quelque chose sur la scène européenne. On voit bien l'opération politicienne qui est en train de se dessiner. Ce qui fait que la France est extraordinairement contrainte par cette obligation d'être le meilleur élève de la classe européenne. Je vais vous faire sourire, André Bercoff, et probablement que je vais étonner nos auditeurs. Est-ce que vous savez que la Cour de justice de l'Union veut obliger l'armée française, les femmes et les soldats qui composent l'armée française, qui sont en train de se battre au Sahel et sur d'autres théâtres d'opération, à respecter les horaires de travail et à se soumettre aux conditions de travail des salariés de l'industrie, des entreprises de services. Ils devraient passer à 35 heures, ils devraient avoir des récups, ils devraient arrêter de se battre quand la sirène sonne, avoir droit à des RTT, etc. Ça va être très intéressant de voir si la souveraineté de la France, et si la France est la seule armée en état de se battre de l'Union européenne, il faut être très clair, elle est la seule capable de mener des opérations indépendantes à peu près partout dans le monde, il faut voir si la France se plie. Mais je pense qu'il y a là une épreuve intéressante pour l'européisme absolu de notre gouvernement.
On va en reparler après les informations. On reste avec vous auditeurs, et avec Hervé Juvin.
Et n'oubliez pas que vous pouvez réagir à partir de 13h15 à cette question aussi que pose Hervé Juvin. Que vaut une vie confinée, sous masque, sans lien social, sans convivialité? C'est aussi la question soulevée par nos restaurateurs. À tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Bercov dans tous ses états.
Et nous continuons notre conversation avec Hervé Juvin, essayiste, écrivain français. Et son dernier livre, son plus récent livre, Le Moment politique, aux éditions du Rocher, et qui est eurodéputé et du groupe Identité et démocratie au Parlement européen. Hervé Juvin, on parlait effectivement de l'Europe, des bons et mauvais élèves. Enfin, il y a surtout des bons élèves et très zélés de la classe européenne, très bien. On parlait de la vie, on essaye de dire que la vie n'est plus du tout tragique. On voit très bien que ce n'est pas le cas. Mais surtout, alors je voudrais revenir quand même à ce moment, cette séquence achat de vaccins. On a vu que quand on a demandé pourquoi Pfizer ne livrait pas assez alors que l'Angleterre était livrée, ils ont dit parce que l'Angleterre a négocié il y a 6 mois, mais l'Angleterre c'est le Brexit, très bien. Pourquoi Israël avait été, plus petit pays, bien sûr, mais avait été largement livré, c'est parce qu'il a payé plus cher. Vous m'avez parlé de la Belgique qui a négocié, et l'Allemagne aussi, m'avez-vous dit, a négocié aussi des achats de vaccins. Donc, les États, quand même, ont leur marge de manœuvre.
Les États ont gardé leur marge de manœuvre, mais je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. La perception de l'Union européenne, qu'elle diffuse partout, c'est justement que l'histoire n'est plus tragique et qu'on en a fini avec l'histoire est tragique. Je ne pense pas que le problème des achats de vaccins par les États-nations soit un problème de prix. Israël, pour des raisons évidentes, a le sentiment que l'histoire peut être tragique. C'est pourquoi Israël a pris la décision politique, premier État au monde, d'opter pour la vaccination massive de sa population et, en clair, avoir un objectif de vaccination de toute sa population en quelques mois seulement. C'est pourquoi aussi des États européens, j'avais cité la Belgique, vous citez l'Allemagne, il y en a d'autres, ont de leur côté négocié des achats de vaccins pour tenter de vacciner en masse leur population. On sait que la Grande-Bretagne est de loin le numéro un des pays d'Europe dans cette direction. Je remarque aussi que la Hongrie et sans doute d'autres pays achètent des vaccins russes, tandis que d'autres se voient offrir des vaccins chinois. Et je sais qu'une partie de la classe dominante en Ukraine a été vaccinée à partir de vaccins qui ont été offerts par Israël. Donc nous avons en quelque sorte une séparation entre les États qui ont la perception que la vie peut être tragique et que c'est chacun pour soi quand les choses deviennent vraiment difficiles, seules les États-nations font face, Et on a ceux qui ont la politique d'abandon à l'Union européenne, aux rêves européistes, dont malheureusement la France fait partie. Et malheureusement, nous sommes les derniers. Nous allons être trop tard. Nous allons être en marge de l'histoire. Et je crains que ça ne se passe mal pour la population française.
Écoutez, espérons que vous serez démenti par les faits. Enfin,
je l'espère aussi, bien
tous,
entendu.
Bien sûr. Mais Hervé Juvin, vous disiez aussi, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose qu'on a tous constaté. À un moment donné, on a l'impression, tout se passait comme si un certain nombre de médecins de ville, dites la médecine, hein, la médecine généraliste ou autre, enfin, etc., a été légèrement laissé de côté, surtout la médecine libérale. Et vous vouliez en parler.
On a un phénomène qui m'inquiète beaucoup. Le mode de vie français, celui que j'ai éprouvé dans l'enfance, que j'ai passé à Nantes, reposait sur le café du coin, sur l'épicerie, sur la charcuterie, sur la boucherie du coin, et évidemment sur le médecin de famille. J'ai passé toute mon enfance, mon adolescence à Nantes. Il suffisait que le médecin se présente dans la maison, déjà ça allait mieux. Et tout semble indiquer que, dans les premiers cas, dans les premières atteintes de la pandémie, beaucoup de médecins, ceux qu'on appelait les médecins de famille, beaucoup de médecins de la médecine qu'aujourd'hui on appelle libérale, avec ce qu'ils avaient sous la main, avec des anti-inflammatoires, avec des vitamines, avec du zinc, etc., etc., ont réussi, non pas à guérir, attention, des patients atteints de manière grave,
bien sûr,
mais ont réussi à guérir des patients atteints des premiers symptômes de la maladie. J'observe qu'ils sont totalement marginalisés. Ouais. J'observe que médecins comme pharmaciens se trouvent extraordinairement marginalisés et je ne peux pas penser, je ne suis pas une minute complotiste, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que l'on est en train d'assister à une prise de pouvoir extraordinaire de la médecine à distance par Internet, la médecine de l'intelligence artificielle et du Big Pharma. Ça m'inquiète beaucoup parce que je suis persuadé pour ma part que l'homme n'est pas une machine, je suis écologiste. L'homme fait partie d'un système complexe. On ne peut pas l'apprécier en dehors de son environnement, de sa famille, en dehors de son origine familiale, etc., etc. Et ce qui se passe, qui consiste à réduire l'homme à un certain nombre de mécaniques qu'on peut traiter à distance sans connaître la personne, me paraît extrêmement inquiétant. Mais la prise de pouvoir actuelle de l'intelligence artificielle d'un côté et des big pharma de l'autre me paraît conduire à un monde qui n'est pas le monde que j'ai connu, dans lequel j'ai aimé vivre, et qui me semble extraordinairement redoutable.
Mais est-ce que ça ne vient pas, ça, Hervé Juvin, tout simplement, que l'intelligence artificielle, la modélisation, etc., c'est beaucoup plus facile pour l'administration, pour une certaine administration et pour certains pouvoirs.
C'est beaucoup plus facile à administrer et à contrôler, et puis ça rapporte beaucoup plus de dividendes. Le problème que nous ne voulons pas voir, c'est le problème de la privatisation de la santé. Je me suis laissé expliquer par un certain nombre de patrons d'hôpitaux que j'ai eu l'occasion de rencontrer, y compris dans les Pays de Loire, je me suis laissé expliquer que le manque de lits de réanimation venait aussi du fait que les lits de réanimation, ça n'est absolument pas rentable. Et dans le cadre d'une préparation de la privatisation de la santé...
On continue de les baisser, d'ailleurs.
On continue de les baisser, d'ailleurs. J'ai eu témoignage de quelques réunions à Bercy, de budgétaires, qui disaient encore à l'automne dernier, en pleine pandémie, qu'il fallait diminuer les budgets de la sécurité sociale et qu'il fallait accentuer encore la gestion par les coûts. Il est clair que la santé, ça se doit gérer par objectif, mais il est clair aussi qu'on ne peut pas laisser la santé entre les mains de sociétés cotées, c'est-à-dire entièrement déterminées par l'intérêt de l'actionnaire. Et je crois que nous aurons une réflexion collective à conduire sur les formes à donner au financement de notre santé, de l'assurance santé, mais aussi des prestataires santé. Pour ma part, je propose que ce soit des coopératives, propriété de tous les citoyens qui veulent s'y associer, qui soient les principaux acteurs de la santé. On ne peut pas laisser notre santé aux mains d'un système entièrement privé et entièrement aux mains des dividendes. On a vu le scandale de Gilead avec le Remdesivir. Je crains que nous n'ayons devant nous d'autres scandales provoqués par la privatisation forcenée de tous nos organismes et de toutes nos institutions de santé publique.
La santé est une chose trop précieuse pour être laissée aux médecins robots.
La santé est une chose trop précieuse pour être laissée au marché.
Et à votre avis, oui, et cette tendance-là, elle est prégnante, et c'est vrai, elle n'est pas prégnante depuis 2 ans, 3 ans. Ça fait des années et des années.
Vous avez un pays extrêmement intéressant à suivre à cet égard, c'est la Grande-Bretagne, qui a fait l'objet de pressions insensées de la part de l'administration Trump pour privatiser son système de santé, le NHS, qui est l'une des institutions de référence de la Grande-Bretagne, depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis Lord Beveridge. Ça va être très intéressant de voir la suite. Est-ce que l'administration Biden va mettre la même pression pour en quelque sorte livrer la santé des Britanniques aux intérêts des firmes privées américaines ? Nous aurons le même débat en France et nous l'avons déjà.
Juste un mot là-dessus, je voudrais savoir votre avis. Le même Trump, quand même, c'est lui qui est allé dans, qui a volé dans les plumes du Big Pharma en demandant qu'en Amérique, le prix des médicaments américains soit basé sur le prix qu'ils vendent en Somalie ou ailleurs, c'est-à-dire le plus bas coût. C'est vrai.
Donald Trump avait réagi à un scandale particulier. C'est le scandale de cet aventurier de Wall Street qui avait repris une petite firme pharmaceutique, avait fait l'inventaire et s'était aperçu que notamment un médicament était absolument vital. Et on avait tiré la conclusion évidente, si ce médicament est vital, il n'y a pas de limite au prix que les gens peuvent payer. Et je crois qu'il avait augmenté le prix de l'ordre de $50 à plus de $1000. Ce scandale a fait qu'il a perdu la présidence de cette entreprise et que l'administration de Donald Trump s'est trouvée devant cette évidence. Les médicaments ne peuvent pas être négociés librement sur un marché libre parce que sinon, un médicament vital se paiera le prix de la vie, c'est-à-dire que son prix sera virtuellement infini.
C'est ça. Eh bien, écoutez, il y a quelque chose que nous allons continuer. Nous allons évidemment discuter... avec Hervé Juvin. Juste, je voulais savoir, le moment politique, je voudrais juste parler une ou deux phrases, après on va discuter avec les auditeurs du Sud Radio, Hervé Juvin, et les restaurateurs aussi, bien sûr. Le moment politique dont vous parlez, est-ce qu'on est actuellement en période de vraiment bascule ? Je ne parle pas seulement à cause du Covid, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, etc. En quelques mots, pour vous, on est dans un moment de bascule pour parler de la France.
Vous l'avez dit, l'utopie qui a habité les États-Unis et beaucoup l'Union européenne, les pays de l'Union européenne depuis les années 90, c'est l'idée qu'on allait mettre fin aux politiques. On le voit très bien avec la gestion française de cette crise. Tout se passe comme si des comités d'experts et le comité de défense avaient remplacé le Conseil des ministres. Évacuons les politiques, c'est aux experts de répondre. Et on voit bien que ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour une raison évidente, pour savoir ce qu'est une bonne vie et la manière dont les Français doivent vivre. Pour savoir la manière dont on fait face à cet ennemi invisible, inconnu qu'est le Covid, c'est tôt ou tard la décision politique qui l'emporte. Et l'on assiste au grand retour du politique. Le grand mensonge, y compris du gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est qu'on allait pouvoir remplacer le politique par la compétence financière, par la compétence économique et par la compétence des experts. Non seulement ça ne marche pas, mais le mélange d'arrogance et d'incompétence qui caractérise ce gouvernement est la pire des choses qui soit possible pour les Français.
Oui,
le retour du politique est devant nous.
J'allais vous dire, mais enfin, encore faut-il qu'il y ait, effectivement, parce que vous parlez de remplacer par la compétence, encore faut-il qu'il y ait des compétences. Parce que si la compétence n'est pas là, ça ne sert à rien. Et deuxièmement, c'est vrai, le politique, encore faut-il qu'il y ait des politiques qui ne soient pas coupées du réel, qui ne soient pas coupées du sol.
Oui, André Bercoff, mais la compétence ne remplace pas in fine la décision politique. Le politique doit écouter les experts, il doit consulter les experts et respecter les experts. Mais au bout du bout, c'est sa responsabilité devant le peuple français et la nation française qui est en jeu. Je crains que ces responsabilités ne soient très lourdes à porter pour nos décideurs actuels.
Actuels ou peut-être ceux qui les ont précédés, on verra ça. En tout cas, le peuple français, en tout cas les auditeurs du Sud Radio vont être avec nous.
Et c'est à vous, en effet, de réagir au 0826-300-300. Cette question que l'on vous pose depuis le début de l'émission, comme un fil d'Ariane finalement. Que vaut une vie confinée, sans masque, sans lien social, sans convivialité ? Et je rappelle ce qu'a dit aussi Alain Fontaine et qui revient tout de suite parmi nous. Les restaurants sont des lieux de vie et on a besoin de vivre. Allez, à tout de suite.
Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états.
André Bercoff est dans tous ses états. Il est toujours là avec Hervé Juvin, eurodéputé Identité et Démocratie, avec Alain Fontaine, patron du Mesturet Paris 2e arrondissement et président de l'Association française des maîtres restaurateurs, et avec vous, chers amis, qui appelez. Vous êtes très nombreux au 0826-300-300. Allez, on va aller à Bayonne. On donne la parole à Philippe. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Philippe.
Oui, bonjour Monsieur Bercoff.
Bonjour.
Oui, bonjour et bonjour à toute votre équipe et merci pour votre radio en général de prendre quand même position et fait et cause pour les restaurateurs. Voilà. Alors moi je vous appelle plus que pour réagir, en fait c'est pour vous faire part de ma situation personnelle qui est en fait j'ai monté un restaurant donc compte tenu de toutes les démarches administratives et les travaux et toutes les choses à faire pour pouvoir débuter l'activité, en fait, je n'ai pu commencer mon activité que mi-décembre. Voilà. Donc, en pleine pagaille, on va dire. Et je n'ai donc aucune perte de chiffre d'affaires à déclarer, ce qui est la condition sine qua non pour bénéficier d'aide.
Bien sûr.
Et je n'ai donc droit à absolument aucune aide, que ce soit de l'État, de la mairie, de la région, de, ou que sais-je encore.
D'accord.
Je n'ai absolument droit à rien. Voilà. Donc.
Alors. Alain Fontaine, voilà, par exemple, Philippe, il vient d'ouvrir, effectivement, en décembre. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire quelque chose? Il doit attendre?
Bonjour Philippe. Effectivement, c'est un des cas, ça fait partie des cas qui sont extrêmement fragilisés. Leur avenir est vraiment en jeu. Moi, je lui conseille vraiment d'insister auprès de la mairie, de la région. Surtout, il faut y aller, il faut monter des dossiers. La région soutient énormément, les régions soutiennent énormément leurs restaurateurs. Le cas que vous évoquez, votre cas que vous évoquez, il y en a beaucoup en France, des gens qui ont ouvert en plein confinement ou entre les deux pensant que c'était fini. Et ils se retrouvent devant ce qu'on appelle un mur de dette. Donc, il faut vraiment un triptyque. Le triptyque, c'est vous, c'est la région ou la mairie ou même les deux, et puis le banquier. Et ça, faut pas lâcher, faut vous battre au quotidien. C'est dur parce qu'on a le moral dans les chaussettes un petit peu, mais ne lâchez rien, ne subissez pas cette chose. Vous avez entrepris, c'est pas de votre faute, la Covid-19 est pas de votre faute. Donc on a la liberté d'entreprendre dans notre pays, il faut entreprendre, et maintenant il faut utiliser quand même tous les moyens possibles pour vous en sortir. Région, municipalité et la banque. Je suis persuadé, allez voir votre chambre aussi, la chambre de commerce de votre région, enfin de chambre de commerce de Bayonne, qui pourra vous aider. Utilisez tous les services.
En fait, c'est même les seuls qui m'ont donné une réponse, oui. qui a priori se penchent un peu sur mon cas, ce sont les seuls. Hein, c'est la chambre de commerce de Bayonne. Et tous les autres ne nous ont pas envoyé sur les. Rien n'est prévu pour nous, hein, même.
Hervé Juvin, vous vouliez intervenir.
Oui, bonjour Philippe, je voulais ajouter un point, mais qui ira dans le sens de ce qu'indiquait Alain Fontaine. D'une certaine manière, nous avons la chance d'être en France. Cela veut dire que, si l'on parle beaucoup du prêt garanti par l'État, il y a une multitude d'acteurs de différentes formes institutionnelles qui peuvent vous aider. Naturellement, il y a la région. Naturellement, il y a les municipalités. Naturellement, il y a les chambres de commerce. Mais vous savez qu'il y a des banques, il y a aussi des sociétés d'assurance qui se sont mobilisées pour trouver des solutions pour des acteurs économiques indispensables comme vous l'êtes. Des gens qui ont eu le malheur d'ouvrir au moment où ça ne pouvait pas fonctionner. Et donc, je crois que je sais que c'est long, je sais que ça peut demander du temps, de l'énergie, de l'attente au bureau. Mais il faut remplir des dossiers, il faut aller rencontrer, il faut faire l'inventaire de tous ceux qui peuvent t'aider, parce qu'ils sont nombreux. Et je constate que, notamment dans ma région, qui est celle des Pays de Loire, beaucoup de problèmes qui semblaient insurmontables ont pu être dépassés par l'action commune de tous ces acteurs locaux et régionaux. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas perdre courage. N'hésitez pas à aller sonner, n'hésitez pas à poser des questions. Et j'espère en tout cas que vous trouverez une solution pour votre exploitation.
Allez, bon courage en tout cas Philippe et tenez-nous au courant. Hein. Surtout n'hésitez pas à nous rappeler au 0826 300 300. Allez, on va à Montpellier, on va donner la parole à Olivier. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Olivier.
Bonjour. Je tiens à réagir avec déjà mon soutien complet au niveau des restaurateurs.
Oui.
Parce que bon, je suis passé voir un copain là qui a ouvert aujourd'hui, j'ai pris deux bricoles, il était heureux et moi ça m'a fait du bien aussi.
Bien sûr.
Je tiens à dire que moi personnellement ma prise de décision par rapport à tout ce qui est dit et fait aujourd'hui, c'est je suis à 3000% contre tout ce qui est fait de la part de notre gouvernement. Ils n'ont fait que montrer de l'incapacité à gérer quoi? Les masques, les tests PCR. Maintenant, le vaccin. Alors, j'ai un de vos intervenants tout à l'heure, j'entendais que effectivement, il y avait les premiers arrivés qui étaient premiers servis au niveau des vaccins.
Mmh.
Je tiens juste à soulever un petit point. C'est que dans 6 mois, s'il y a les effets secondaires qu'on a eus, par exemple, sur le vaccin du H1N1 avec des narcolepsies, en veux-tu, en voilà, on sera peut-être content d'avoir été en retard. Mmh. Parce que là, on est les cobayes de ces gens-là. Mmh. Mais en aucun cas, les tests préliminaires n'ont été faits. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, et je sais de quoi je parle, parce que Je suis du métier malgré que ma société vient de fermer. Mmh. D'accord. On a cinq sociétés du groupe ont fermé d'un coup, hein, là, en l'espace de quelques semaines.
Je vous demande pas le titre du groupe, mais dans quel domaine vous êtes ?
Chirurgie.
Chirurgie, donc, d'accord.
On ne pouvant plus opérer, mmh. on n'a plus de chiffre d'affaires.
D'accord.
Donc la fabrication s'arrête et tout reste s'arrête. D'accord. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'effet boule de neige va être là, c'est-à-dire que les 50 ou 60 000 morts du Covid, c'est la roupie de Sansonnet, parce que dans l'intervalle, ces messieurs qui nous dirigent, et Olivier Véran en tête, cette espèce d'incapable, a tout arrêté, y compris les dépistages des cancers. Ça veut dire que derrière les phases 3 et 4 de cancer, on va se les prendre comment ? Ça fait 200 000 morts. Mmh. Voilà. Et là, s'ils ne sont pas, comment je pourrais dire ça ? Assignés en justice pour crime contre l'humanité, je ne comprends plus, là. Mmh. Donc moi, tout ce qui est aujourd'hui préconisation de ce genre de personnages, couvre-feu et tout ça, je ne suis plus aucune règle de leur part. Mmh. Je me préserve, moi et les autres, mais ça s'arrête là. Mmh. Ils ont fait preuve que d'incompétence, d'accord ? Ils ont fait preuve que d'incapacité. Gouverner, c'est prévoir, ils n'ont rien prévu. Quand ils arrivent sur le deuxième confinement, vous inquiétez pas.
Oui, Olivier, je veux pas les défendre, mais je crois que c'était un peu valable. Ça n'enlève rien, hein, ça ne console en rien, mais c'était un peu valable dans le monde entier. Hein. Personne n'avait prévu ça, et personne n'a effectivement eu la solution miracle. Ça se saurait, hélas. Mais je comprends votre réaction. Hervé Juvin, vous vouliez réagir, je crois.
D'abord, monsieur, je sens la colère dans votre voix, et c'est évidemment une colère que je partage. Je me permettrai simplement trois observations et l'une qui m'apparaît essentielle. La première observation, c'est qu'effectivement, André Berkoff l'a rappelé, il n'y a pas eu de bons élèves. Ceux qui s'en sont le mieux tirés, ce sont évidemment les pays asiatiques qui ont repris leur croissance depuis déjà plusieurs mois, simplement au prix de dispositions autoritaires qui probablement seraient totalement intolérables dans nos pays. Je vais vous donner un simple exemple. Des Britanniques sont en quarantaine à Singapour, confinés dans une chambre d'hôtel pendant 15 jours. L'un d'eux est sorti 3 heures avant l'achèvement des 15 jours. Il a pris 3 mois de prison ferme. Je pense que les Français ne sont pas prêts à tolérer ce genre de choses qui explique effectivement les performances extraordinaires de Taïwan, de la Corée du Sud. Ma deuxième réflexion serait la suivante, et là je parle en tant qu'élu, en tant que responsable politique. J'entends bien la tentation de beaucoup de Français, en particulier des restaurateurs. J'entends bien aussi les discours inflammés de certains qui se prétendent responsables politiques en disant « faisons fi des lois, faisons fi des règles, rouvrons, etc. » Je crois que c'est totalement irresponsable. Personne aujourd'hui en France ne peut prendre le risque de jouer avec la pandémie. Et les élus ou les responsables politiques qui jouent avec « oublions les règles, réouvrons en dépit des lois et des dispositions sanitaires », je pense qu'ils jouent avec le feu. J'espère comme vous que cette pandémie va bientôt s'arrêter. Je l'ai dit, je ne suis absolument pas certain. Je redoute, et c'est mon troisième point, que les premiers qui se font vacciner ne soient que les cobayes des laboratoires pharmaceutiques qui ont eu un temps extrêmement court pour procéder aux effets. Mais de grâce, n'allons pas contre la politique de sécurité sanitaire. Elle est bien ou mal conduite, c'est un autre débat. Mais ceux qui l'enfreignent aujourd'hui prennent une responsabilité historique qui m'apparaît insupportable.
Oui, c'est vrai. Mais juste Hervé Juvin, d'ailleurs, Alain, vous intervenez quand vous voulez, bien sûr. Le problème, c'est vraiment de savoir, et là, ce n'est pas des... Bien sûr, il y a pandémie, il y a épidémie. D'abord, je rappellerai quand même, et ça, ce sont des chiffres indubitables, c'est que la mortalité est de 0,05%. Ce n'est pas la grippe espagnole, ce n'est pas la grippe de Hong Kong, les gens ne meurent pas dans la rue. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ça au sérieux, au contraire. Mais, est-ce qu'il n'y a pas le problème que... Pourquoi ? Moi, je vais dire, c'est le problème que je me suis toujours posé. Je veux savoir pourquoi, effectivement, c'est pas parce que on parle des restaurateurs aujourd'hui, pourquoi on ferme un certain nombre d'installations de kilos pour exiger, évidemment, les gestes barrières et tout, et que dans le métro, RER et dans les gares, mais vous avez des rassemblements de folie complets et qui sont toujours là, et il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, Alain parlait des cantines, oui, Alain, oui.
Oui, ce que vous évoquez est effectivement un gros problème. Et nous, restaurateurs, on le dit depuis le début, puisque on nous a fermé les premiers. Oui. Et nous avons été les premiers avec les syndicats à mettre un protocole sanitaire en place très strict, avec des gestes barrières très stricts. Et au deuxième confinement, on pensait qu'on allait rester ouvert sous d'autres formes, midi et tout ça. On a fermé. Et pourquoi l'amertume ? Pourquoi la colère d'aujourd'hui ? Parce qu'on s'aperçoit que dans d'autres lieux, on peut manger, par exemple, dans un restaurant d'entreprise, vous pouvez manger tranquillement et avoir la même convivialité, oui, on va dire ça, et la même promiscuité avec les gens. Je ne parle pas de promiscuité, je parle de promiscuité. Et donc, vous allez dans des réfectoires de cantine scolaire, c'est pareil, et vous avez plein d'endroits où on mange tranquillement, sans aucun problème, enfin, avec bien sûr les gestes barrières. Ce qu'on aurait pu faire, nous, ce qu'on a dit au gouvernement via les syndicats qui se sont battus pour ça, et il ne nous a pas encore entendu, c'est que nous étions les meilleurs ambassadeurs et les meilleurs pédagogues pour faire passer pour l'apprentissage, à savoir les gestes barrières, le protocole sanitaire que les gens auraient peut-être respecté chez eux. Au lieu de ça, on nous a fermé, on a fermé les discothèques, on a tout fermé, et on a envoyé les gens dans la sphère privée. Et c'est effectivement des incohérences. Alors, évidemment...
Ou la sphère privée, pardon, et beaucoup de médecins, d'épidémiologues, de virologues, la sphère privée, où on contamine.
Tout à fait.
Parce que le confinement en famille... Voilà.
Alors, pour revenir à ce que disait M. Juvin, moi, j'entends bien, et c'est vrai que maintenant, les postulats, comme je disais tout à l'heure, ont été pris, on ne peut pas revenir en arrière. Ça serait au gouvernement à revenir en arrière sur ce qu'il a dit. Maintenant, il faut qu'on subisse cette chose-là, mais on sait... ça aurait pu être fait autrement, et la colère des restaurateurs dont vous parliez tout à l'heure et que vous avez retranscrit via les interviews que vous avez fait, on peut la comprendre parce qu'il y a cette amertume de ne pas avoir été entendu.
On se retrouve tout de suite après
le débat continue et vous nous appelez au 0826 300 300, on vous attend.
Ici Sud Radio, les Français parlent au français, les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
Et le débat continue justement dans l'émission d'André Berkoff avec Alain Fontaine, patron du Mesturet, président de l'association française des maîtres restaurateurs, avec Hervé Juvin, essayiste, écrivain, eurodéputé, identité, démocratie et d'ailleurs candidat aux élections régionales de juin 2021. Hervé Juvin, vous vouliez réagir justement.
Oui, je voulais réagir par rapport aux propos d'Alain Fontaine parce que une initiative très positive, je l'ai constaté dans les Pays de Loire, je l'ai constaté ailleurs, par exemple en Aveyron, consiste à réouvrir les restaurants le midi, notamment pour les professionnels du BTP, pour les chauffeurs routiers, pour les livreurs, bref, pour tous ceux qui devaient se contenter d'un sandwich au coin de la rue ou de manger sur leurs genoux dans un hangar. Les distances sanitaires sont respectées. Je crois que c'est presque une formation. Bien sûr. Je ne comprends pas pourquoi, dans l'ensemble des restaurants, sous réserve de l'application stricte des dispositions sanitaires, on ne permet pas au moins le midi de se restaurer, parce que ça libérerait une grande part de la vie sociale. C'est pas simple d'avoir des rendez-vous toute la journée et de n'avoir aucun lieu où manger le midi. C'est la même chose pour des lieux de culture. Je ne comprends absolument pas pourquoi dans les cinémas, dans les théâtres, dans les salles de spectacle, sous réserve de n'occuper qu'une place sur trois et d'adopter les mesures de distanciation qui s'imposent, je ne comprends pas pourquoi on ne réouvre pas les lieux de culture. Mais je le répète, c'est au gouvernement de faire ce choix, c'est au gouvernement de modifier sa politique, ce n'est pas par cette forme d'insurrection contre les règles qu'on obtiendra des résultats.
Clémence.
Allez, on retourne au standard, on va donner la parole à André qui nous appelle de Strasbourg. Bonjour André.
Oui, bonjour.
Bonjour. Écoutez, moi je vous appelais, mais je voudrais en 20 secondes souligner à quel point ce que M. Juvin a dit est fort juste. Des lieux de culture et des lieux de restauration fermés, alors qu'il suffirait d'imposer des distances. Et paradoxalement, c'est l'athée qui parle, les églises sont ouvertes le dimanche. Et c'est aussi une forme de théâtre, ce que dit le curé. Donc voilà, j'ai un peu de mal à comprendre, pas aller au théâtre, mais les gens qui veulent aller à l'église peuvent y aller. Mais c'est pas pour ça que je vous appelais.
Alors, vous nous appelez pourquoi, André ?
Donc, moi je vous appelle parce que j'avais saisi le procureur de la République de Paris suite au premier tour des municipales l'an passé. On savait que le président de la République était assez hostile à son maintien, mais il y a un certain nombre de notables de la politique qui ont mis la pression, et à commencer par cette notoriété publique aussi, c'est pas un secret, le numéro 2 du pays, monsieur Larcher, président du Sénat, qui avait exigé que le scrutin soit maintenu, malgré les préconisations du corps médical. J'avais saisi de différents chefs le procureur de la République de Paris du comportement que je trouve catastrophique de M. Larcher. Il m'a répondu, c'est pas un simple substitut, c'est le vice-procureur, donc le bras droit du procureur de la République de Paris qui répond. Il m'a répondu une lettre d'une petite vingtaine de lignes. Et entre autres, j'ai été interrogé si l'homicide involontaire n'était pas constitué. Involontaire, bien sûr, je précise.
Ouais, quand même.
Et donc, le vice-procureur me répond sur ce point, je cite, ouvrez les guillemets, l'homicide involontaire n'est pas caractérisé en l'absence de nom de victime. Ce qui veut dire, à contrario, que s'il était avéré qu'un scrutateur, un candidat, un électeur aurait contracté la Covid dans un bureau de vote et en serait décédé 5 jours, 10 jours, 15 jours, 3 semaines après, ça voudrait dire, à contrario, que l'infraction d'homicide involontaire est constituée. Ça me semble quand même des choses extrêmement graves, parce qu'on entend souvent M. Larchu donner des leçons à tout le monde, pas seulement lui, mais tout spécialement lui, alors qu'on sait qu'il y a des gens, énormément de gens qui ont contracté la Covid le 15 mars. Est-ce qu'il y en a qui sont décédés de cette contractation? Ça, évidemment, c'est à prouver. C'est autre chose, mais on sait en tout cas que nombreux ont contracté la Covid, scrutateurs, candidats, électeurs, peu importe. Et donc, on a cette réponse, l'homicide involontaire n'est pas caractérisé en l'absence de nom de victime. A contrario, chacun peut en déduire ce qu'il veut.
D'accord, écoutez, ça, effectivement, cette histoire a fait beaucoup couler d'encre. Fallait-il effectivement maintenir les élections municipales la veille même du confinement? C'est une question qui ne sera pas tranchée, mais que vous avez eu raison de poser, Clémence.
Allez, on retourne au 0826-300-300 et on donne la parole à Richard qui nous appelle, alors je ne sais pas comment ça se prononce, de Gouet,
en Seine-et-Marne. Oui, bonjour à vous tous, bonjour Monsieur Berkov, je suis un très grand fan, merci pour votre émission, ça fait du bien.
Merci.
Moi, je voulais seulement dire qu'en Italie, aujourd'hui, ils sont passés en zone jaune et tous les restaurants vont réouvrir.
Tous les restaurants, tous les bars, vous dites, oui.
Voilà, ma sœur, je le sais ça parce que ma sœur habite à côté de Vérone.
Oui.
Tous les bars et les cafés vont être ouverts jusqu'à 18h.
Mmh.
Le soir, ça sera pour emporter seulement.
Mais dans la journée, ça sera ouvert. Dans la journée, ça sera ouvert. Journée, ce sera ouvert, vous dites, en Italie.
La journée, ça sera ouvert, exactement. La journée, ça sera ouvert à l'intérieur, pas seulement en terrasse, mais à l'intérieur, en respectant les règles sanitaires.
Bien sûr.
Voilà. En Espagne, j'ai des amis qui habitent en Espagne. Ça fait un moment que les restaurants sont ouverts, les salles de spectacle sont ouvertes, ils vivent. Ma fille habite au Texas. Son mari est première trompette à la philharmonique de Fort Worth. C'est à côté de Dallas.
Oui.
Lui, il travaille. Il y a des performances. Les restaurants sont ouverts. C'est pas l'hécatombe. Donc, je vois pas pourquoi qu'en France, tout le monde a peur et on a arrêté de vivre. Voilà ce que je voulais dire.
Ça vous fait rêver, Alain, l'Italie ?
Alors, l'Italie, ça fait toujours rêver, mais on est un rêve aussi pour l'ensemble du monde. La France, c'est un pays extraordinaire.
Ben, on
est d'accord, et dans la France, il y a les bistrots, il y a les cafés, les restaurants.
Mais à condition qu'on puisse les montrer.
Voilà, ça fait rêver parce qu'on sait qu'on pourrait faire ça. Après, il faut effectivement que le postulat de base qui a été pris en mars dernier se renverse. Il faut nous faire confiance. Mais effectivement, on peut y aller étape par étape. Mm-hmm. Je pense que vraiment, certains restaurants pourraient rouvrir. Après, il faut effectivement le respect du protocole sanitaire. Il faut le feu vert du gouvernement. Je rebondis sur ce qu'a dit M. Juvin tout à l'heure. Il est hors de question de faire n'importe quoi et dans le désordre. Mais il n'en demeure pas moins qu'on doit pouvoir ouvrir parce que cette crise sanitaire est faite que de paradoxes. Que de paradoxes. C'est-à-dire, il y en a qui ouvrent, on ne sait pas pourquoi. On nous ferme, on sait à peu près pourquoi. Mais là, on sait qu'on pourrait rouvrir à certaines heures. En Espagne, c'est jusqu'à 3 heures. Là, je viens d'apprendre qu'en Italie, c'est jusqu'à 18 heures. Apparemment, le pouvoir fait confiance aux chefs d'entreprise de ces pays-là. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas dans une cour d'école. Je pense qu'on peut faire confiance aux chefs d'entreprise que nous sommes.
Hervé Juvin, vous vouliez réagir ?
Oui, vous posez à La Fontaine une question qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est le manque de confiance entre l'administration et l'entreprise. Je crois malheureusement que c'est un mal français et je ne suis pas sûr que nous allons le guérir très vite. Ce qui est très intéressant dans le témoignage qui vient d'être apporté, c'est l'immense écart qui existe entre les réactions des différents gouvernements et des différentes nations.
Européens, en plus.
Et l'on voit bien que l'idée de tout conformer, l'idée d'aligner tout le monde sur le même modèle ne marche pas. J'aurais pu dire à l'inverse, et André Bercov va me taxer de pessimisme, que la situation au Portugal est assez dramatique actuellement, alors que le Portugal était l'une des nations européennes qui maintenait absolument tous les lieux de vie ouverts. Je pourrais prendre l'exemple de la Bulgarie, où, y compris les discothèques et les boîtes de nuit étaient encore ouvertes à Noël et au premier de l'an, la Bulgarie vit une vague de pandémie absolument différente. Ça n'a pas de sens de vouloir aligner tout le monde sur le même modèle. C'est à chaque pays, et quelquefois c'est à chaque région, de réagir, d'agir, et faisons très attention à tout ce qui tend à uniformiser. Je redoute évidemment l'action de l'Union européenne à cet égard, puisque partout l'Union européenne ne veut voir qu'une seule tête et veut calquer tout le monde sur le même modèle. Le prêt-à-porter, ça ne marche pas. Dans la lutte contre la pandémie, il faut du sur-mesure.
Il faut de la carte et pas seulement du menu. Et d'ailleurs, on aurait pu faire ça dans les régions françaises, parce qu'il y a des régions françaises beaucoup moins atteintes que d'autres.
Bien évidemment.
Allez, vous continuez en tout cas de nous appeler au 0826 300 300. On vous attend.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Bercov dans tous ses états.
Et vous êtes toujours et encore très nombreux à réagir hein, au 0826 300 300. Et vous êtes aussi nombreux à vouloir vous adresser justement à notre invité Alain Fontaine, patron du Mesturet, c'est un restaurant dans le 2e arrondissement de Paris, et président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Tout de suite, on part dans le Var, on va donner la parole à Maxime.
Oui, bonjour Maxime.
Oui, bonjour. Alors moi je suis restaurateur dans le Var, je vous appelle pour deux choses.
Ouais.
C'est que je suis déjà très en colère parce que quand on nous parle d'aide, ça me fait vraiment rigoler parce que déjà, c'est pas des aides. Parce qu'avec tout le pognon qu'on leur file toute l'année, on récupère, on va dire, le dû de ce qu'on paye. Hein, parce qu'il faut le savoir qu'on est quand même un des pays les plus imposants dans le monde, hein,
certes,
selon l'OCDE.
Certes, oui.
Donc on récupère un petit peu la monnaie de notre pièce qu'on leur donne. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que nous, les restaurateurs, on est très en colère. Pourquoi on se rebelle ? Ça, on oublie d'en parler. C'est que déjà, on nous a demandé de faire Monde des Merveilles pour réouvrir cet été. Ça nous a coûté un fric incroyable, hein, faut le savoir, hein, parce que tous les plexiglas, rééquiper les cuisines, tout ça, ça nous a coûté un pognon de fou. Mais ces petits énarques, eux, ont des chauffeurs, ont des cuisiniers, bouffent des plats à 1000 balles et refont des moquettes à je ne sais plus combien. Ce sont des gens qui sont déconnectés de la réalité. Les Français en ont plein les fesses de ces gens qui, depuis un an, nous font faire Monde des Merveilles. Alors, on vous confine, on vous déconfine. Le port du masque, il faut pas. Faut pas oublier qu'on a eu quand même des préfets qui ont pris des arrêtés pour pas qu'on porte le masque au début de l'épidémie,
Au début, oui.
Voilà, d'accord. Ces petits énarques-là nous font faire tout et n'importe quoi, nous les restaurateurs. On a 10% d'aide, monsieur Bercov. Vous savez ce que c'est, 10% d'aide? On comble même pas nos charges. Ils ont oublié, c'est que dans la restauration, il n'y a personne qui fait 35 heures. Personne ne fait 35 heures en restauration. Qu'est-ce qu'on fait de 1500 balles quand un cuisinier, ça fait 55 heures par semaine? Comment il fait pour vivre? Le mec, il a des charges, il a sûrement des crédits en rapport avec son train de vie, ce qu'il gagne. Et quand on a 1500 euros par mois, comment on fait? Eh bien, ça aussi, on oublie de le dire, c'est que tous nos cuisiniers, tous nos serveurs, qui n'ont plus de pourboire, qui n'ont pas de
leur sort supplémentaire,
ils s'endettent. On est en train de tout perdre. Donc le problème, quand on a un petit con comme monsieur le maire, qui se permet de dire, on va vous punir, mais on va nous punir de quoi? On est déjà punis, on est en train de tout perdre. On est punis à cause d'eux et de leurs incapables. Ce sont des incapables, ils nous font tout. Nous les Français, je vais vous dire un truc, monsieur Bercov. On est prêts, tous, on veut tous lutter contre le Covid. Évidemment qu'on veut tous lutter contre le Covid. Ça serait du non-sens de vouloir faire le contraire. Mais nous, on voudrait des choses qui tiennent debout. Il n'y a rien qui tient debout. On est des cobayes pour ce gouvernement. Un jour, on nous dit on est confiné. L'autre jour, on n'est pas confiné. Je vous rappelle qu'il y a un an, monsieur Bercov, on nous a vendu le confinement comme la solution miracle. Aujourd'hui, ça va faire un an pile. On est au même stade que l'année dernière. Mais par contre, en l'occurrence, ils ont pourri l'économie. Ah ça, pour l'avoir pourri, ils l'ont complètement pourri. Hein. Alors, le problème, c'est que les Français n'ont plus confiance. On va nous dire quoi? On va vous reconfiner? Mais monsieur Bercov, les gens vont se rebeller, c'est normal. On n'y croit plus. On nous a vendu la même chose l'année dernière. On nous a dit que c'était la solution ultime, machin, bidule. Mais le problème, c'est que la solution ultime, elle n'existe pas. On va être obligé de vivre avec ça. Parce que le vaccin, vous savez ce qui va se passer? Ça va être comme la grippe. Tous les 100, ils vont nous pondre un nouveau vaccin pour le variant anglais, pour le variant chinois, le variant corse, le variant israélien. Donc, on fait comment? On arrête de vivre, on coupe le pays? Nous, ils nous ont demandé de... Vous savez comment ça nous a coûté, nous, cet été, M. Bercov, pour ouvrir? Ça nous a coûté 10 000 balles. D'accord? Ça n'a pas été pris en charge par l'État.
Et vous
après, nous disent, on ferme.
Vous avez réouvert combien de temps,
Maxime? Nous, on a réouvert 3 mois. On a eu la chance, c'est que on a eu tous les Parisiens, tous les gens du Nord qui sont venus chez nous. Parce que tous les autres pays étaient fermés. Voilà, ça nous a aidés, on peut pas le dire. Et puis après, on a été, parce que ça aussi, beaucoup de gens l'oublient, c'est qu'ensuite, on n'a plus le droit de travailler après, après 19h, après ça a été après 18h. Donc nous, on va dire que mi-septembre, la saison était finie pour nous. On ne pouvait plus accueillir de clients le soir. Nous, on a un hôtel-restaurant. Comment on fait? On dit quoi aux gens le soir? Bah non, mais vous venez dans votre chambre, mais vous mangez pas? Eh ben, on est obligé de fermer. Voilà. On est obligé de fermer. Donc nous, on a eu 3 mois ouverts dans l'année. Hein, 3 mois ouverts dans l'année. On a dépensé des sommes faramineuses pour pouvoir être dans les normes. Et les types, ils nous ferment comme ça du jour au lendemain. Les stocks, on s'en fiche. Les gens qui ont travaillé, on s'en fiche. Mais monsieur Berkoff, j'insiste sur ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dirigé par des petits énarques millionnaires. Ils ne sont pas des gens du peuple. Ils ne savent pas ce que c'est d'aller bouffer au restaurant. Ils ne le savent pas. Ce sont des gens qui ont des chauffeurs, qui ont des
maîtres d'hôtel.
Ouais, voilà. Ils ne savent pas ce que c'est que le peuple qui crève. Ils n'y connaissent rien. Et ce petit con de Macron, il se permet de donner des leçons à Trump par rapport à l'invasion du Capitole. Alors que le type, pendant 2 ans, il n'a pas su gérer la crise des Gilets jaunes. Mais vous voyez quel genre de guignol on est gouverné? Mais le type, il sait même pas où est-ce qu'il est. Il a des yeux plus gros que la tête. Il est mégalo. Même pas il prend la parole pour s'adresser à nous. C'est son espèce de Castex. Et Castex, on peut en parler. Castex, c'est monsieur déconfinement. Mais monsieur déconfinement raté. Il l'a raté son déconfinement. La preuve, on est encore au même stade aujourd'hui. Et on n'a que des incapables.
Ouais. Maxime, mais on vous entend et je vous entends et je suis pas le seul. On vous entend.
Ah non,
vous
entend, Monsieur Berkoff, parce que nous on va crever. Nous on va crever. Et les banques, vous voulez que je vous dise un truc, parce que ça aussi les restaurateurs vont commencer à en parler. Et je crois que je suis le premier à en parler sur votre chaîne. Le PGE, qui est une grosse escroquerie de l'État français, parce que personne va pouvoir le rembourser. On va se retrouver dans la merde. Vous savez que nous, les banques, les restaurateurs viennent nous voir. Ils viennent nous voir déjà. Je vous le jure, ils viennent nous voir pour nous demander déjà comment on va s'organiser pour le mettre en place. Parce que les banques se chient dessus qu'on les rembourse pas. Et donc nous, il y a un autre truc que le gouvernement a dit, parce que lui, il fait des belles promesses. Et vous savez, en France, il y a plus d'employés que d'employeurs. Donc les gens ne sont pas au courant de tout, malheureusement. Mais le PGE, il est gratos, entre guillemets, la première année, mais la deuxième, il n'est pas du tout gratuit. Il est plus à 0,25 la deuxième année, c'est pas vrai. On fait comment, nous ?
Maxime, je voudrais justement que... Alain Fontaine, j'aimerais que... Quelle est votre réaction par rapport à cette colère? Et cette colère de Maxime, effectivement, on l'a entendu chez beaucoup d'autres personnes, d'autres auditeurs de Sud Radio, effectivement, qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un cercle vicieux, effectivement. Sur le moment, ça aide et ça sort. Et après, on fait comment? C'est pas facile, c'est clair.
La colère de Maxime, elle est, comme on a entendu tout à l'heure, la colère est légitime. Là, je suis devant à votre studio, mais j'ai la même colère que lui de temps en temps. Dernièrement, d'ailleurs, dans mon restaurant, j'étais tout seul et j'ai été interviewé par un de vos confrères et ma voix s'est cassée. Je ne pensais pas, je suis quand même un petit gars solide, j'ai 63 ans, j'ai fait d'autres trucs, et ma voix s'est cassée. Pourquoi? Parce qu'on est au bout du rouleau, parce que c'est pas tellement qu'on se sent pas écouté, quoi que ce soit, on sait pas où on va. On est au milieu de nulle part. Nos restaurants sont devenus des restaurants fantômes. Et ça, c'est insupportable. Maxime, lui, son plaisir, c'est pas de crier dans un micro ou dans son téléphone, dans une émission de radio. Lui, son plaisir, c'est de recevoir des gens, de les accueillir, de leur faire à manger, et puis de faire vivre sa famille, et de faire son boulot de chef d'entreprise. Or, on peut plus le faire. Donc, évidemment, il faut que l'État continue à nous aider, parce que sa région... Comme Paris, mais comme d'autres régions, en fin de compte, sont des régions sinistrées. Donc, les 20% de fonds de solidarité, il va falloir absolument passer à 25%, ça c'est très clair. Il va falloir aussi que, comme on est fermé depuis 8 mois, qu'il y ait 2 semaines de congés payés de plus. Ça, il faut que les syndicats repartent au travail et obtiennent cela pour certaines régions, les 25% et les 2 semaines de congés payés. Mais au-delà de ça, il y a le problème des banques. Les banques, effectivement, il a dû recevoir le même courrier que j'ai reçu. C'est-à-dire que...
Ah bah oui, bien sûr.
Bien sûr, on nous demande de...
Ils disent quoi, les banques, alors?
Ah bah, de nous organiser par rapport au remboursement, sauf qu'ils ont un décret comme quoi c'est repoussé encore d'un an, donc le décret va sortir, donc on va repousser d'un an. Mais le scandale, il n'est pas là. Je suppose que Maxime l'a vu sur son compte en banque. Les assurances qui n'ont rien fait pour nous, elles se servent déjà sur ce prêt-là. C'est-à-dire que tous les mois, je ne sais pas si vous avez regardé Maxime, mais on vous prélève l'assurance sur le prêt du PGE que vous avez fait. Je ne sais pas si vous avez fait un PGE. Vous l'avez vu,
monsieur,
c'est un scandale.
Mais merci de l'avoir souligné. Je l'avais oublié dans tout ce verrier. On oublie tout. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que moi, je ne sais pas vous, mais nous, l'URSSAF, toutes ces conneries-là, on n'a jamais eu.
Alors, l'URSSAF, il faut faire très attention, c'est un calcul très précis. Il y a le report, il y a l'annulation des charges patronales quand on est fermé, et les charges sociales, il y a 20% de crédit. Il y a 20% de crédit. Donc ça, c'est votre expert comptable. Là, moi, j'invite les experts comptables à vraiment aider les restaurateurs, parce que c'est extrêmement compliqué. Maxime, mais moi-même et d'autres, nous sommes dans un brouillard, on nous a mis dans un brouillard comptable considérable. Et effectivement, où j'entends la colère, mais la peur de Maxime, c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'on a un mur de dette qui va s'élever parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit vraiment, ce qui est reporté ou ce qui est annulé. Par contre, les banques se servent, et puis les assurances se servent deux fois, même trois fois. Il y a moins d'accidents de voiture, donc leur police d'assurance, elles ne servent pas. Deuxièmement, elles prennent de l'argent sur les PGE, vous vous rendez compte, c'est quand même 200 milliards
PGE,
sur quoi,
c'est les prêts garantis
de l'État. Oui. Elles prennent 0,57% chaque mois. Elles se servent déjà. Mais oui, c'est ce que disait Maxime. Depuis un an, elles se servent déjà, les assurances. Et elles ont gagné une troisième fois puisqu'elles n'ont pas remboursé la perte d'exploitation. Donc vous avez des gens, je ne sais pas s'il est rugby ou football, Maxime, mais vous avez des gens, on nous a tous dit de sortir sur le terrain pour combattre le Covid-19, et il y en a qui sont restés au fond du vestiaire. Et au fond du vestiaire, vous trouvez qui? Les assurances. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il y a des gars qui refusent de rentrer dans la mêlée. Voilà, moi, la colère de Maxime, je la partage. Après, il faut qu'on soit dans les règles pour obtenir le meilleur de l'État. On est plutôt bien servi, mais il faut vraiment qu'on rouvre, quoi. On a besoin de rouvrir, comme en Espagne peut-être jusqu'à 15h ou comme en Italie jusqu'à 18h. Il faut vraiment qu'on puisse refaire notre métier, parce que ceux qui se suicident, c'est pas parce qu'ils ont des problèmes d'argent, c'est parce qu'aussi ils peuvent pas faire leur métier. Plus, ouais. Nous, on est nés pour notre métier.
Bien sûr.
Allez, Clémence. On retourne au standard et on va donner rapidement la parole à Christian qui nous appelle d'Albi.
Oui. Bonjour Christian.
Oui, bonjour, M. Petrov. Voilà, c'est juste un petit élément pour... C'est la fin de l'émission. Oui. Je suis le Réaction 19, l'association de Maître Carlo Brusa, que vous devez connaître.
Oui.
En regardant la vidéo, il y a quelques jours de ça, très peu, il a donné un conseil pour les restaurateurs, entre autres, comme le témoignage qu'il y a eu là, qui est très marquant, votre auditeur. En fait, il faudrait que les restaurateurs créent des associations avec le libellé, ce que vous voulez, les fins gourmets. Du coup, ça ne serait plus un local qui accueille du public, ce serait un local fermé qui accueillerait des adhérents. Et du coup, il pourrait fonctionner et accueillir donc des adhérents qui seraient des clients, mais qui cotiseraient pour l'adhésion et qui pourraient rentrer. Qui
association, loi privée, enfin oui, loi 1901, vous voulez dire, comme ça.
C'est ça. Bon, je pense que ceux qui sont intéressés, le mieux, c'est qu'ils se rapprochent de Réaction 19. Mais oui, le principe, c'est ça, c'est que du coup, si vous êtes une association, ce n'est plus un local ouvert au public, c'est fermé, la porte est fermée, et on ouvre aux gens qui sont adhérents, mais on peut être adhérent pour pas cher, quoi, mais sur ce
manière symbolique.
Et ça permettrait à certains restaurateurs, là, qui sont, je vois, c'est-à-dire dans une merde complète, quoi. Et ça respecterait la loi, c'est simplement une vente différente.
D'accord, j'ai compris. Christian, Alain Fontaine, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire d'association? C'est après un club privé, quoi.
C'est un club privé, un peu, et donc il faut des... Alors, c'est une idée plutôt bonne, assez, sauf qu'il faut effectivement que les adhérents de cette association, il y ait un cadre, vous ne pouvez pas adhérer à n'importe quelle association, donc il faut que l'association ait un but, c'est une association 1920, soit agréée, et de l'autre côté, il faut que les adhérents adhèrent pour cette finalité. C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, un club de bridge, il faut que ça soit un club de bridge qui se passe dans un restaurant, et évidemment, vous pouvez peut-être servir du thé. Mais il faut vraiment que tout
concorde.
Faut pas
que ça soit une association de mangeurs.
Faut pas que ça soit une association de mangeurs, ça passera pas. Par contre, bien entendu, ce biais juridique existe, j'en ai entendu parler, tout à fait.
En tout cas, écoutez, ce qu'on espère tous, je sais, auditeurs de Sud Radio, que vous êtes d'accord avec nous, on espère tous que les restaurants, les bars, les cafés, avec évidemment le respect des gestes barrières, évidemment, mais ouvrent le plus vite possible, c'est la grâce que je nous souhaite.
Oui, et courage aussi à tous les restaurateurs, justement, et tous les autres auditeurs qui ont essayé de nous joindre et qui sont dans la difficulté en ce moment. On est avec vous et vous pouvez continuer de nous appeler tous les jours au 0 826 300 300. Merci beaucoup Alain Fontaine, je rappelle, un patron du restaurant Le Mesturet et président de l'association française des maîtres restaurateurs. André Berkoff, on vous retrouve demain à midi. Vous pouvez évidemment tous réécouter cette émission en podcast sur sudradio.fr et sur YouTube. Et puis, évidemment, Sud Radio continue avec Brigitte Lahaie. Attention, la question 7. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Pourtant, il existe une intelligence en amour. On en parle avec Marie-Laure Peretti, là aussi. Vous pouvez réagir au 0 826 300 300.
Allez, bon appétit.